Bonjour à tous, je suis Quentin Raffet, on a eu l'occasion de se croiser pour le séminaire de Pauline Ronceau. Et aujourd'hui, en remplacement du séminaire que normalement devait faire Laurent Ruibaldo, qui ne peut pas, pour des raisons professionnelles à peu près évidentes, une surcharge de travail de la part de son entreprise, c'est moi qui remplace Laurent, et je ne vais pas vous présenter son travail, puisque c'est lui qui sait mieux que moi, mais je vais vous présenter quelque chose que je fais régulièrement dans un de mes cours en 3A. Comme ça me donnera l'occasion de ne pas le faire, si jamais vous arrivez dans mon cours, en 3A. Et c'est l'histoire de l'invention du transistor, donc c'est une histoire que j'aime bien raconter en début de module, parce qu'elle permet de donner des références temporelles un peu sur cet objet, et puis de comprendre des choses importantes au niveau de ce que c'est que le travail de développement technologique. Je reviendrai en fin de séminaire là-dessus, sur un peu une histoire de morale, une forme de morale de l'histoire de l'invention du transistor. C'est un séminaire que grosso modo j'ai tiré une très grande partie des informations d'un livre qui s'appelle Crystal Fire, qui est un livre qui est en anglais, qui est un très très bon livre de journaliste scientifique sur toute cette période de l'invention. Et puis, quand j'ai monté ce séminaire la semaine dernière, je suis retourné sur Wikipédia, il y a énormément d'informations sur Wikipédia. Et donc, si vous avez des questions, je vous conseille de vous replonger sur toutes les pages liées aux scientifiques dont je vais vous parler, qui sont très très bien faites sur Wikipédia. J'espère que vous avez les slides devant vous. Normalement, je vais faire deux choses. D'une part, sur les slides, je vais indiquer quand est-ce que je parle au niveau temporel, avec une balise en haut à droite indiquant sur quel slide je suis quand je parle. Et quand le slide sera terminé, je mettrai un petit coup de cloche pour indiquer qu'il faut tourner le slide. Donc ce son-là. Voilà. Il est de bon ton de prendre des notes parce que les slides sont très légers. C'est-à-dire que j'ai mis essentiellement que des photos pour essayer d'appuyer mon propos. Ça ne résume absolument pas ce que je raconte. Et dans le QCM, seront posées des questions, bien entendu, sur le séminaire. Donc prenez des notes. C'est bien, vous avez l'audio, donc vous pouvez mettre pause et vous pouvez reprendre comme vous voulez, puisque vous avez le timing sur les slides, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, c'est quentin.raffet@grenobleinp.fr, c'est toujours le même truc, mais si vous avez des questions, allez zoner sur Wikipédia, c'est une très bonne initiative. J'espère que ce séminaire vous plaira. En tout cas, en général, mes étudiants, quand je le fais en début de cours, ils apprécient beaucoup. Donc j'aime bien effectivement commencer cette partie pour le cours pour essayer d'expliquer que quand on travaille sur un objet, c'est quand même bien de savoir son histoire, qui a inventé quoi, comment, dans l'enchaînement. Et ça, ce serait un exemple donc tiré sur le transistor. Alors toute cette histoire commence avec une personne qui est un poil oublié de l'histoire, mais pas complètement non plus, parce que c'était quelqu'un qui a été important pour la suite, pour son institution. Cette personne, c'est Mervyn Kelly. Mervyn Kelly, c'était quelqu'un qui, dans les années 20 et années 30, travaillait sur un objet qui est montré sur la droite du slide, c'est-à-dire sur les tubes à vide, les tubes à amplification. Donc, je ne sais pas si vous le savez, c'est des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui pour les amplifications audio, parce que les audiophiles adorent le son rond que donnent ces amplificateurs, qui sont en fait de très mauvais amplificateurs, parce qu'ils ont des fonctions de transfert qui sont qui dégradent fortement le son, en fait, donc, d'un point de vue purement électronique et de traitement du signal. Mais cette déformation du son est très appréciée par les audiophiles et les amplis à lampe, donc les amplis à tube à vide, coûtent très cher actuellement. Mais à l'époque, c'était le seul composant qu'on avait pour l'amplification du signal, de la puissance, etc. Et c'était aussi le seul objet qui permettait de faire du traitement de l'information. Et donc, ils étaient déjà inclus à l'intérieur d'ordinateurs, dont je vous montrerai une photo juste après. Et donc, le gros problème de ces tubes à vide, c'est qu'ils étaient très peu fiables. Et comme ils étaient peu fiables, il fallait vraiment travailler sur leur technologie pour essayer d'améliorer leur durée dans le temps, qui était très mauvaise, c'était déjà très fragile. Et donc, Mervyn Kelly travaillait sur ce sujet. Il a par ailleurs apporté des grandes avancées en termes de conception et d'élaboration de ces objets. Et donc il était chef lui-même par la suite, au début des années 30, d'un groupe de recherche et de développement au sein d'un laboratoire. Et ce laboratoire s'appelle les Bell Labs. Alors les Bell Labs, qu'est-ce que c'était? C'est quelque chose de central dans l'histoire qu'on va voir. Les Bell Labs, c'est l'équivalent de ce qu'était France Télécom il y a encore 20 ans, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire le monopole sur les télécommunications aux États-Unis. Et donc, les Bell Labs avaient, enfin, Bell avait le monopole sur les transmissions téléphoniques, et donc possédait grandes ressources de revenus et avait donc des laboratoires de développement et de R&D de très très haut niveau. Et en particulier, donc, dans un de ces laboratoires, travaillait cette équipe dédiée à l'amélioration des tubes à vide qui était un composant essentiel dans les télécommunications pour les Bell Labs. Mervyn Kelly, dans les années 20, avait déjà fait pas mal progresser ses composants à tube à vide, mais il savait, ayant bien étudié le sujet, il savait que ce n'était pas une solution viable à long terme, que ce n'était pas une solution qui était fiable, et que intrinsèquement, ce composant possédait des défauts qui n'étaient pas améliorables, même si on poussait les choses de plus loin qu'on voulait. Il y avait trop de fragilité intrinsèque, et donc il fallait penser à autre chose. Et en particulier dans les années 30, donc c'était quelqu'un qui était curieux et qui un scientifique curieux qui s'intéressait à ce qui se passait à ce moment-là. Dans les années 20, dans les années 30, il y avait le développement dans les milieux scientifiques et académiques de tout un pan de recherche que vous avez vu en cours, qui s'appelle la physique du solide, et en particulier la physique du semi-conducteur. Et il pressentait que ces matériaux-là, qui étaient très intéressants, qui sont à la fois des mauvais conducteurs et des mauvais isolants, mais qui sont des conducteurs comme on a envie qu'ils soient. C'est surtout ça qui est très intéressant avec les semi-conducteurs. J'aurai peut-être l'occasion de revenir pendant le séminaire. Il sentait qu'il y avait quelque chose à faire du côté de ces matériaux-là. Et donc, il a commencé à en parler à son management et à dire: je pense qu'il faudrait qu'on monte un groupe de R&D autour du développement, du remplacement des tubes à vide avec des matériaux semi-conducteurs. Et donc, c'est à peu près autour des années, c'est au début des années 30, c'est 1930, enfin plutôt 1934, etc., qu'il commence à avoir ces idées-là, et c'est à partir de 36 que les choses commencent à se mettre en place. Pour rappel, sur le slide d'après, on voit, je vous ai mis une photo de ce qu'était un ordinateur à l'époque, donc vous voyez, et ça, à mon avis, c'était pas un des plus gros. Un des plus volumineux, c'était des choses qui remplissaient des pièces entières et qui étaient remplies de ces tubes à vide. Et il fallait des armadas de techniciens qui surveillaient ces ordinateurs en permanence pour qu'ils fonctionnent, puisque voilà, ces ampoules, ces tubes à vide. Donc, je ne vous ai pas expliqué vraiment le fonctionnement, c'est essentiellement de l'émission par des électrodes dans le vide, entre deux électrodes dans le vide, contrôlé par une grille qui module le courant dans cette structure en vide. Et donc il y a beaucoup de dégradation. Et donc il claquait très très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, c'est qu'il fallait une sacrée équipe de techniciens en permanence pour faire tourner un ordinateur qui aujourd'hui est comparable à une calculette de poche à 10 centimes, grosso modo. Voilà l'ordre d'idée, voilà ce qui poussait Mervyn Kelly à explorer d'autres directions pour remplacer ces fameux composants qui étaient très fragiles. Voilà. Mervyn Kelly n'est donc pas un physicien du solide. Et il a besoin de compétences en physique du solide. Il a d'autres champs de compétences en ingénierie et en recherche, Mervyn Kelly, mais il n'est pas formé à cette nouvelle science qu'est la mécanique quantique et qui est en train d'étudier la physique du solide et de comprendre comment les électrons sont transportés à l'intérieur de ces semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est qu'une structure de bande, etc., etc. Et donc, il fait la tournée des universités aux États-Unis et il cherche des gens qui travaillent en doctorat sur ces thématiques. Et il tombe sur William Shockley. Alors, on va beaucoup, beaucoup parler de William Shockley, c'est quelqu'un de très important dans cette histoire. Mais à cette époque-là, donc c'est 1936, voire même peut-être un peu avant, William Shockley termine sa thèse, où grosso modo, il calculait des structures de bandes de matériaux semi-conducteurs assez étranges pour savoir si les matériaux étaient théoriquement à gap direct ou à gap indirect. À cette époque-là, il n'y avait pas les moyens de calcul qu'on a aujourd'hui, par définition. C'est quasiment l'histoire dont on parle d'ailleurs. Et tout se faisait un peu à la main. Et Shockley, voilà, travaillait sur ce domaine et était donc de facto, à la fin de son doctorat, un spécialiste en physique du solide et en physique du semi-conducteur. Donc c'est quelqu'un qui était très bien disposé pour pouvoir épauler, et monter, en tout cas faire partie et monter l'équipe. Une équipe de recherche dédiée sur le remplacement de ce composant amplificateur par des composants qu'on appelle à l'état solide. Souvent en anglais on dit solid state device, C'est-à-dire que comparativement à l'ampoule qui est dans le vide et où les électrons sont émis dans le vide et entre deux électrodes, donc courant est contrôlé par une grille, là l'idée c'est de faire tout sous format solide et de ne pas créer le vide qui était bien sûr une des sources principales de fragilité des composants actuels. Shockley est donc recruté par Mervyn Kelly pour monter un groupe de recherche sur une thématique dont je viens de parler. Et il doit lui-même partir à la recherche de membres de cette équipe pour pouvoir faire cette activité. Et donc, un des premiers et un des personnages très importants qui va être recruté, c'est quelqu'un qui s'appelle William Brattain. Alors, Shockley vient de rentrer au Bell Labs. Brattain travaillait déjà au Bell Labs. Brattain est légèrement plus âgé et un peu plus âgé que Shockley. Et la particularité de Walter Brattain, c'est que c'est un expérimentateur. Shockley est un théoricien. Il a fait du calcul de structure de bande théorique. C'est quelqu'un qui vient de la mécanique quantique. Là-dessus, il n'y a pas. Voilà, c'est ce qui fait de lui vraiment plutôt un côté théoricien. Et il avait besoin de quelque chose de complémentaire. Et donc, c'est donc orienté vers un expérimentateur. Walter Brattain, c'est pas n'importe quel expérimentateur. Il était vraiment réputé pour être un très très bon expérimentateur. Et l'avenir le confirmera. Très habile de ses mains, très expérimenté dans les différents domaines des Bell Labs. Il rejoint donc autour de 1936 Shockley pour faire partie de cette équipe qui travaillera sur les composants électroniques à l'état solide. Pour rappel, encore une fois, les composants électroniques à l'état solide à l'époque, donc autour de 1936, c'était ça. C'était quelque chose qui ressemble à des très vieilles maquettes de TP à Felma. J'espère qu'il n'y en a plus comme ça dans les TP de physique, mais moi j'ai travaillé avec des choses qui étaient quand même pas très éloignées de cette chose-là quand même. Hein. On voit bien le support en bakélite, etc. Et ça s'appelle un cat whisker, donc une moustache de chat. C'est un composant qui faisait office de composant rectifiant, c'est-à-dire de diode, qui faisait passer le courant que dans un sens et pas dans l'autre. Et à l'époque on comprenait pas du tout comment ça fonctionnait. On savait que ça fonctionnait, on savait que ça faisait passer le courant que dans un sens, mais on ne savait pas du tout. Quelle était l'origine physique du fait que le courant passait dans un sens et pas dans l'autre sur un composant comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais vous avez un fil qui est plutôt de couleur un peu orangée là, c'est un fil de cuivre, et il est posé sur une surface, alors je ne sais pas du tout quel type de surface il y a dessus. Et en fait, pour faire fonctionner ce composant, il fallait balayer donc la fameuse moustache de chat, donc c'est-à-dire le bout du fil de cuivre, sur la surface cylindrique là, pour arriver à un moment où le courant était rectifié et où l'appareil fonctionnait en fait. Donc c'était quand même pas le truc le plus facile à mettre en œuvre et le plus stable non plus. Alors bien plus tard, quand tous ces domaines scientifiques ont progressé, on a compris comment ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionnait pas en fait. La base de ce truc-là, c'est que le cuivre s'oxyde, il forme un matériau qui s'appelle l'oxyde de cuivre, le CuO, et le CuO est un matériau semi-conducteur, et en fait, si la condition d'oxydation du fil est au bon endroit sur l'endroit du cylindre métallique sur lequel il est connecté, ça forme ce qu'on appelle un contact métal semi-conducteur, qui est une diode. Et bon, ça, on le reverra en détail pour ceux qui feront la filière IFI dans le cadre de mon cours au deuxième semestre de la filière, mais voilà, le contact métal semi-conducteur est une diode au même titre que la jonction PN. Donc on savait vraiment pas grand-chose à l'époque sur les composants électroniques à l'état solide. Il y en avait déjà qui marchaient, mais de façon complètement empirique. Et il s'agissait de tout inventer en fait. Une fois que l'équipe est constituée, elle commence à se mettre au travail. Et la première idée qu'ils ont est donnée par le schéma que je vous mets sur le slide, la figure 2.2. Cette figure, elle est tirée d'un livre qu'a écrit lui-même Shockley en 1950. Et ce livre explique un peu le côté scientifique de comment ils ont compris comment fonctionnait, comment mettre en forme ces semi-conducteurs pour en faire des composants. Et ils ont eu beaucoup d'errances, et en particulier une qui est à la base cette idée-là. Alors je vais passer un peu de temps à vous expliquer ce graphique. Vous avez sur la partie de gauche donc une partie en métal qui va être une électrode, ok? Et juste à côté, sur la droite, en hachuré avec deux niveaux de hachure, c'est une partie de semi-conducteur. Alors on savait à cette époque, on commençait à pouvoir créer des cristaux de semi-conducteurs, c'était le tout début de la science de la cristallisation. Et on savait en particulier faire des cristaux de germanium, des petits cristaux de germanium. Le germanium était pratique parce que comme il a un gap qui est plus faible que le silicium, il peut fondre beaucoup plus facilement, il a un point de fusion qui est beaucoup plus bas. Et donc il est beaucoup plus facile à cristalliser. Donc, ils travaillaient à cette époque sur des cristaux de germanium. L'idée dans cette structure, c'est de venir connecter le germanium sur ses côtés plutôt latéralement, et plutôt vers le haut d'ailleurs, le graphique n'est quand même pas très très à l'échelle, et de venir avec l'électrode de droite faire ce qu'on appelle un effet de champ. Okay? Donc l'électrode et le germanium sont séparés par de l'air. Okay? Ils ne sont pas contactés directement. L'idée est de faire un condensateur. Alors pourquoi faire un condensateur? Sur le schéma, sur le schéma en haut à droite, vous avez le schéma sans polarisation de l'électrode métallique. Et vous voyez, comme on le sait, comme vous l'avez vu dans le cours sur les semi-conducteurs, normalement, vous avez à la fois des porteurs, enfin vous avez des porteurs dans les semi-conducteurs. Et donc l'idée c'est de venir, donc vous avez à la fois, donc là si je regarde bien, vous avez des donneurs, et donc là votre semi-conducteur est de type N, okay? Vous avez un excès d'électrons à l'intérieur du semi-conducteur du germanium. Okay? Donc il a déjà sa conductivité, puisque vous savez que la conductivité elle est donnée par Q mu N, donc Q mu fois la quantité de porteurs en excès, c'est-à-dire N, c'est un semi-conducteur N. Mais on sait que forcément, si on arrive à connecter le semi-conducteur, on peut créer un effet de champ et attirer les porteurs vers la surface grâce à l'électrode. Donc si on polarise pour mettre une charge positive sur l'électrode en métal, en réponse, en face, on sait très bien qu'on va attirer ces porteurs, ces électrons libres du semi-conducteur vers la surface. Et comme ils vont être attirés, si on contacte par le haut, eh ben, il y aura un chemin de conduction qui aura plus d'électrons libres que dans le semi-conducteur à l'équilibre, on va dire. Et donc, d'entrée de jeu, on sait déjà que, enfin, si on comprend ce que c'est qu'un semi-conducteur, on a tout de suite cette idée. Okay? Cette idée, c'est de moduler la charge localement dans le semi-conducteur pour pouvoir augmenter la conductivité. Et si on arrive à moduler cette charge et moduler la conductivité, eh ben, on peut moduler le courant à travers un signal électrique. Et si on peut moduler le courant à travers un signal électrique, et bon, on remplit directement la fonction amplificatrice. Parce qu'avec une faible tension sur le condensateur en métal, là, sur la plaque de métal, on peut moduler un grand courant qui passe à l'intérieur du germanium. Et ça, c'est l'idée par laquelle commence tout de suite l'équipe de Shockley. Et c'est sur cette structure, qui est la structure évidente, en fait, une fois qu'on a compris un semi-conducteur, ça vient tout de suite. C'est en fait la structure d'un MOSFET, on en verra plus tard. C'est sur cette idée qu'en fait ils vont beaucoup galérer. Et ça ne va pas être aussi évident que ça. Mais malheureusement, même si les travaux avancent mais ne sont pas concluants, ils doivent tout de même s'arrêter, puisque très vite, à partir de 40, eh bien, la Seconde Guerre mondiale éclate et une très 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 grande partie des scientifiques sont réquisitionnés pour travailler sur l'instrumentation de guerre. Et en particulier, toutes les personnes qui sont peu ou prou rattachées à l'électronique vont travailler sur un sujet commun qui s'appelle le radar. Et donc, comme vous pouvez voir sur cette photo-là, d'un radar de l'armée américaine, il y a quand même pas mal d'électronique à l'intérieur. Et il fallait voir l'électronique que c'était à l'époque. Donc, ils partent un peu dans toutes les directions. Enfin, disons qu'ils ne sont pas spécialement dans les mêmes équipes, Brattain, Shockley et compagnie. Mais ils continuent dans leur coin à travailler sur des aspects d'électronique et quand même, ils comprennent un peu plus certaines choses. La guerre n'est pas complètement inutile de ce point de vue-là, malheureusement, sur les aspects électroniques, et vous savez que le radar est une application qui a fait beaucoup progresser l'électronique. La guerre se termine, et après la guerre, Shockley a la possibilité de recruter d'autres personnes pour son équipe de recherche. Et en particulier, il va recruter une personne qui est clé dans cette histoire-là, qui est John Bardeen. Donc John Bardeen, il a fait lui aussi, c'est un théoricien comme Shockley, brillant théoricien. Et il a travaillé lui aussi sur la mécanique quantique et sur les semi-conducteurs. Il vient de l'université, il avait essayé avant-guerre à être plutôt du côté universitaire, mais apparemment, de ce que j'ai revu sur Wikipédia, il s'ennuie beaucoup à l'université, il sent qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives. Et donc il cherche un poste, quoi. Et c'est comme ça que Shockley arrive à recruter John Bardeen. Bardeen est recruté, lui aussi se met au travail, et ils repartent sur la piste de la structure que je vous ai montrée précédemment, c'est-à-dire celle avec une électrode qui vient venir attirer des charges dans le semi-conducteur pour augmenter sa conductivité. Alors, le recrutement de Bardeen, c'est un recrutement clé, parce qu'il comprend très très vite qu'il y a un problème. Ils avaient fait beaucoup d'essais expérimentaux sur la structure que je vous ai montrée. Ils avaient essayé d'améliorer la structure, ils avaient essayé, donc ça marchait toujours pas. Ils ont essayé non pas d'utiliser de l'air comme diélectrique, comme isolant, mais par exemple des liquides, différents liquides. Ça marchait toujours pas. Et après beaucoup d'essais expérimentaux, ils sont bien obligés de voir qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors quand il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui est intéressant, c'est pas spécialement de jeter le truc tout de suite à la poubelle, et bien c'est une mauvaise idée, c'est essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est là où Bardeen fait une de ses premières très grandes contributions, en tout cas à mon domaine, à la physique des composants à semi-conducteurs. Il comprend qu'il y a un problème avec les semi-conducteurs. En tout cas, il y a un problème avec la surface des semi-conducteurs. Vous avez vu dans vos cours que la structure de bande, elle se calcule en supposant un cristal 3D infini avec des conditions périodiques. Et donc, c'est dans ces hypothèses-là qu'on fait les structures de bande et qu'on détermine les relations entre E et K. C'est-à-dire qu'on détermine les états possibles pour les électrons, c'est-à-dire où est-ce que les électrons peuvent être à l'intérieur du semi-conducteur. Vous avez vu que ces conditions sont grosso modo équivalentes aux conditions de Bragg. Donc un électron ne se balade pas comme il veut à l'intérieur d'un semi-conducteur. Il doit opérer, il doit vérifier certaines relations. Et donc c'est la structure de bande. Et Bardeen comprend vite qu'il y a un problème à ce raisonnement qui suppose que le semi-conducteur est infini, puisque le semi-conducteur n'est pas infini par définition. Et en particulier dans la structure qu'ils sont en train d'utiliser, qu'ils essaient de faire, le semi-conducteur il est même largement à la surface en fait. Et Bardeen comprend que à la surface, un semi-conducteur, ça ne se comporte pas du tout comme dans le volume, bien qu'effectivement les calculs de structure de bande soient juste à l'intérieur d'un volume de semi-conducteur, puisqu'on peut considérer quand même avec quelques mailles que le semi-conducteur est quasiment infini. À la surface, ce n'est plus du tout le cas. À la surface, vous avez une rupture de la périodicité cristalline. Et donc Bardeen comprend que cette rupture de périodicité cristalline, elle n'est pas sans effet sur les états dans le semi-conducteur. Et donc Bardeen est le premier à comprendre, alors probablement que historiquement il a dû être épaulé par d'autres analyses de la littérature, etc., parce que tous les travaux scientifiques ne se font pas complètement de façon isolée, hein, faut être très clair. Mais Bardeen est le premier à comprendre que, à la surface, il y a des états. Et donc s'il y a des états, ça veut dire que les électrons peuvent s'y mettre. Et si les électrons peuvent s'y mettre, ça veut dire qu'ils peuvent faire une surcharge directement électronique à la surface du semi-conducteur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des états de surface de Bardeen. Et donc il comprend avec un raisonnement électrostatique, donc là le graphe est toujours tiré du livre de Choclet de 1950, mais c'est le graphe 3 qui explique pourquoi ça ne marchait pas. Donc vous avez en haut, tout d'abord, la structure non polarisée, qui contient déjà une couche de surcharge électronique négative à la surface. Et vous avez en haut à droite le cas où on polarise l'électrode pour essayer de moduler le champ à l'intérieur du semi-conducteur et donc de moduler le nombre de porteurs et donc de moduler la conductivité. Donc dans ce cas-là, eh ben, on a une charge plus effectivement qui apparaît sur l'électrode, mais on a aussi et toujours cette charge moins. Okay? Le problème de ces états, c'est que ce n'est pas comme une bande de conduction. La bande de conduction, certains électrons sont à l'intérieur, mais la bande de conduction est principalement vide. Ce qui veut dire que quand on applique un champ, on peut faire augmenter l'énergie des électrons et créer un courant. À l'intérieur des états d'interface, les électrons sont bloqués. Et donc, ils ne participent pas au courant. Donc, cette charge d'entrée de jeu ne participera pas au courant. Mais il y a un deuxième effet qui est encore plus pervers, et il est expliqué de façon un peu complexe, mais normalement, vous avez vu quand même en partie ça dans le cours de physique des semi-conducteurs, en partie sur la jonction PN. Vous avez un graphe de charge et vous avez un diagramme de bande qui représente la bande de conduction. Okay? Donc, le graphe de charge, qui sont à gauche et à droite, montre bien qu'il y a tout d'abord un espèce de Dirac de charge au niveau de la surface, une grande concentration de charge. Et en dessous, donc toujours à gauche, eh bien vous avez le système en polarisation, enfin non polarisé. Okay? Donc, vous avez un oxyde qui est plat, enfin, pardon, vous avez un diélectrique qui est plat, qui représente le vide, la charge électronique, et puis une courbure de bande dans le semi-conducteur avec les porteurs libres un peu plus loin dans le semi-conducteur. Sauf que quand on vient polariser cette structure, déjà on vient surcharger la couche électronique de défaut d'interface, et surtout si on fait les calculs, on montre que même si on polarise, donc vous voyez que dans la partie de gauche du diagramme d'énergie, au lieu d'avoir une partie plate, on a une partie linéaire mais qui a été baissée, ça veut dire qu'on a polarisé l'électrode, eh bien la présence de cette charge électronique fait qu'il n'y aura quasiment aucun impact sur le volume du semi-conducteur. Et ça, c'est un effet très connu en électrostatique, c'est comme un effet de peau, okay? Et c'est un effet d'écrantage électrostatique. Ça veut dire que si vous avez une surcharge électronique à la surface de votre matériau, même si vous mettez une électrode, eh bien vous ne pourrez pas moduler la charge à l'intérieur du semi-conducteur puisqu'il y a cet effet d'écrantage électrostatique. Et donc avec cette explication extrêmement, qui est décisive pour le domaine, Bardeen explique pourquoi la structure, qui est pourtant la structure la plus élémentaire sur laquelle on part directement quand on a compris ce que c'est qu'un semi-conducteur, eh bien pourquoi cette structure ne marche pas. Puisque cette structure ne marche pas, il faut changer d'approche. Et il change donc d'approche. Alors, l'approche vers laquelle ils partent est plutôt orientée vers l'injection de porteurs minoritaires. Pour pouvoir vous expliquer un peu, dans les grandes lignes, cette idée, je suis obligé de vous rappeler ce que c'est qu'un électron et un trou. Alors, j'aime bien faire l'analogie au niveau des électrons et des trous en utilisant une histoire de tube qui est rempli soit d'une goutte soit d'une bulle. Un tube, si vous mettez une goutte et que vous penchez le tube, la goutte, elle va descendre, elle va aller vers les altitudes les plus basses. Okay ? Ça, on pourrait dire avec beaucoup de guillemets que c'est comme un électron. Si on prend par contre un tube qui contient une bulle, si on penche le tube de la même manière, où est-ce que va aller la bulle ? La bulle va le remonter. Elle va remonter vers les altitudes les plus hautes. Et ça, on va mettre beaucoup de guillemets autour, c'est comme un trou. Et ça explique pourquoi d'ailleurs les électrons et les trous ne vont pas dans le même sens dans les champs électriques. Okay ? C'est une vision simple que je vous donne. C'est une vision qui est simple. C'est pas évident de comprendre ce que c'est qu'un trou. Moi-même, quand j'étais à votre place, c'est pas quelque chose que j'ai compris directement. J'aime bien cette analogie parce qu'elle explique très simplement pourquoi est-ce que les électrons vont pas dans le même sens que les trous. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces physiciens, ils se sont posés la même question. Okay ? Si vous faites de la physique, vous faites bouger une goutte, vous allez faire la physique sur quoi ? Vous allez faire la physique sur la goutte parce qu'elle a une masse, on va dire une viscosité, elle a un volume, c'est des quantités qu'on connaît bien, et on va faire bouger la bulle, la goutte, pardon. Donc ça, c'est assez évident. On ne va pas du tout faire la physique sur l'air qui bouge autour de la bulle. Ça n'a aucun sens. C'est beaucoup plus complexe que simplement donner un point et des propriétés physiques à une goutte et de la faire descendre dans un tube. Ben, on peut se poser la même question pour le trou, ou l'équivalent de la bulle. La bulle, elle est là dans le liquide, on penche le tube, pardon, la bulle remonte, on fait la physique sur quoi ? Est-ce qu'on fait la physique sur tout l'eau qui tourne autour de la bulle, ou est-ce qu'on dit, bon, allez, je vais mettre une masse négative à ce truc-là, je vais lui donner un volume, une espèce de viscosité aussi, et comme ça, avec cette masse négative, ma bulle remonte, et je ne m'embête pas à faire la physique sur toute l'eau qu'il y a autour de la bulle pour faire bouger la bulle. Ce raisonnement, les physiciens l'ont fait. Les physiciens, pour deux raisons, ils l'ont fait. Enfin, pour une seule raison, ils l'ont fait. Les physiciens sont feignants. Il faut bien se retenir que dans la physique, il faut aller droit au but, il faut aller à l'essentiel. Et si on a moyen de trouver un raccourci pour faire la physique, eh ben on l'utilise. Et donc, les physiciens ont été confrontés au même problème. Ils se sont dit, bon, effectivement, on a de la génération. Quand on a un électron qui est dans la bande de valence et qui saute dans la bande de conduction, eh bien, il laisse un trou derrière lui. Bon, ce trou, je vais lui donner une charge négative. Ok, c'est une absence d'électrons. Mais ce raisonnement, il est facile à faire, mais encore faut-il le prouver. Donc, encore faut-il trouver l'existence, je dirais, d'un point de vue physique, du trou. Et ça, c'est pas du tout évident. Pourquoi ce n'est pas évident ? Eh bien, parce que mon analogie, elle a quand même un gros problème. Ok, comme la plupart des analogies en physique, elles sont sympathiques pour comprendre rapidement certaines choses, mais elles ont très souvent des limites. Et quelle est la limite de cette analogie ? Eh bien, dans mon tuyau, si je compare ça à un semi-conducteur, donc vous avez la figure du haut sur le slide, eh bien, la bulle et la goutte sont au même endroit. Et oui, dans l'espace, l'électron et le trou, quand on a une génération de paires électrons-trous, les électrons et les trous sont au même endroit. C'est pas parce qu'ils sont à des énergies différentes qu'ils sont localisés différemment. Alors l'électron, effectivement, il est libre, il peut se déplacer, il est un peu autour, mais il est quand même attiré par la charge positive. Donc il y a quand même quelque chose qui torturait un peu les gens de cette époque-là, à savoir, quand je représente, je peux effectivement dire que mon électron c'est une goutte et puis mon trou c'est une bulle, mais quand je représente ça physiquement, c'est sur des énergies potentielles qui sont différentes. J'ai effectivement une bande interdite, donc c'est le diagramme du bas, une bande interdite où j'ai beaucoup d'électrons en dessous de la bande de valence, dans la bande de valence, et quasiment rien dans la bande de conduction. Je peux générer des porteurs par excitation thermique ou par dopage. Alors plutôt par excitation thermique, on va considérer un semi-conducteur intrinsèque là. Mais j'ai effectivement une génération de porteurs, mais toute la physique me dit que l'électron, sa seule envie, c'est d'être à une énergie la plus basse. Okay, c'est la statistique de Fermi-Dirac. C'est l'énergie la plus basse. Et donc, pourquoi est-ce que mes électrons, massivement, ils ne retournent pas tranquillement, ils ne se désexcitent pas? C'est ce qu'on voit dans les atomes, c'est ce qu'on savait sur les atomes. Pourquoi est-ce qu'ils ne désexcitent pas? Et qu'il aille se recombiner avec les trous. Alors bien sûr, il se recombine, mais pourquoi est-ce que je pourrais dire que j'ai l'existence de trous et j'ai l'existence d'électrons, sachant que effectivement je peux les générer, mais normalement en théorie ils devraient se recombiner très 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 rapidement. Donc pour se convaincre qu'il n'était pas en train de travailler sur des choses qui n'existaient pas, en particulier dans le cas des porteurs minoritaires, les physiciens à cette époque ont fait différents calculs et différentes expériences. En particulier des calculs en mécanique quantique. On montrait que quand on avait suffisamment d'électrons à l'intérieur d'une bande de conduction, ils ne se recombinaient pas directement avec les trous, mais qu'une fois qu'ils étaient dans la bande de conduction, eh bien ces électrons, étant donné qu'ils étaient ensemble, eh bien il y avait une forme de cohérence quantique qui leur permettait de se maintenir un certain moment à l'intérieur de la bande de conduction. Et donc, ce phénomène permet déjà d'une part de voir théoriquement qu'on peut avoir une certaine durée de vie des porteurs minoritaires dans les bandes. Ici, je vous ai représenté quelques porteurs électrons à l'intérieur d'un semi-conducteur où il y a beaucoup de trous. Donc techniquement, normalement, ça devrait recombiner très rapidement. Mais en fait, ces électrons ont des durées de vie. Et ceci en partie dû au fait qu'ils ont une cohérence quantique. Alors c'est bien beau de le voir théoriquement. Il faut encore le prouver expérimentalement. Et donc, au début des années, enfin vraiment en sortir de la guerre, une fois qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, ces scientifiques ont développé pas mal de manips. Et quand on voit les manips, c'était quand même pas le matos qu'on avait à l'époque. Et ils ont quand même réussi à prouver à cette époque-là qu'il était possible de faire une injection de porteurs minoritaires, un courant de porteurs minoritaires à l'intérieur d'un semi-conducteur, et de montrer que effectivement, les porteurs minoritaires, ici représentés, ce sont les électrons. Les porteurs minoritaires pouvaient avoir une durée de vie et donc passer à l'intérieur de ces semi-conducteurs un certain temps et donc sur une certaine durée. L'ensemble de ces résultats expérimentaux et théoriques donne de nouvelles idées, en particulier à Bardeen. Bardeen, toujours théoricien, se dit ok, quelle est la distance minimale sur laquelle je peux injecter un courant avant qu'il se recombine? C'est une histoire de longueur de diffusion en fait, hein. Et il fait ces calculs en ayant un peu un composant en tête que je vous montre sur le slide. Il se dit, ok, si une électrode, je mets deux électrodes au niveau de mon semi-conducteur, toujours germanium, hein, puisque le silicium n'était toujours pas cristallisé. Donc un matériau germanium, je mets deux électrodes, donc une vraiment sur le bas qui vient contacter, et une à droite qui va faire passer le courant. Et quelle est la distance minimale un peu optimale, on va dire, pour que à partir de laquelle, si j'approche une deuxième électrode, je peux influencer le courant en apportant une quantité de porteurs minoritaires supplémentaires, qui va venir quand même fortement moduler le courant. Alors c'est une idée comme ça, il fait ses calculs théoriques, il trouve que ça fait quelques centaines de microns. Ok. Et il finit ce calcul et il va voir Brattain. Shockley n'était pas là à ce moment-là. Il va voir Brattain et il lui expose son calcul. Alors avant de finir sur ce slide, pour passer au suivant, je vous explique, c'est pas très très clair mon histoire de comment est-ce que le courant, comment est-ce que l'injection de porteurs minoritaires influe ce courant. L'idée, elle est un peu autour du transistor bipolaire, on verra pourquoi par la suite. Mais techniquement, cette structure-là, on la comprend toujours pas très bien et vous allez voir pourquoi. Mais disons que c'est sur cette idée-là que part Bardeen, il va voir Brattain et il lui propose cette structure. Bardeen va voir Brattain et lui dit: j'ai fait un calcul théorique et j'aimerais bien vérifier si ça fonctionne, cette histoire. On pourrait apparemment, théoriquement, influencer le courant qui passe au travers d'un semi-conducteur si on approche une électrode de quelques centaines de microns les unes des autres. Et donc, Brattain, comme je l'ai dit, était un très très bon expérimentateur, quelqu'un très beau avec ses mains. Et donc, il se dit: ah bah, c'est simple pour mettre deux électrodes très très proches. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer un petit triangle de polystyrène avec de l'aluminium. Je vais prendre une lame de rasoir et je vais couper cette feuille d'aluminium avec cette lame de rasoir pour en fait séparer les deux électrodes. Et donc il se retrouve avec la structure schématique que je vous montrais sur le slide d'avant. Et donc il bidouille un truc, il contacte le tout, il soude quelques trucs, et il fait la structure qu'on voit sur la photo à droite, qui est la photo de la structure qu'il a montée. Il polarise et il montre la première amplification à l'état solide. Et donc, ce jour de 23 décembre 1947, c'est le jour où le premier transistor a été inventé par Bardeen et Bratay. Et j'insiste sur le fait que c'est Bardeen et Bratay. Le nom du premier transistor, c'est ce qu'on appelle un point contact transistor. Ce n'est pas du tout un bipolaire. Le bipolaire n'a pas du tout été le premier transistor inventé. C'est le point contact transistor. On trouve cette erreur très fréquemment dans les thèses des doctorants travaillant sur le transistor, donc essayez de retenir dans un coin de votre tête, si jamais un jour ça vous arrive, que le premier transistor, ce n'est pas du tout un bipolaire, c'est un point de contact transistor inventé par Bardeen et Bratay. Alors, le truc, c'est que donc vous avez à droite une espèce de reconstitution qui se trouve dans un musée aux US, c'est pas le transistor original, mais c'est une reconstitution de ce transistor. Donc vous voyez déjà l'échelle, c'est quand même pas gros à la base, hein. Moi, voilà, à chaque fois je voyais la photo de gauche, je croyais que c'était énorme, et en fait une fois, bien plus tard, j'ai vu la photo à droite, non, c'est déjà assez petit comme structure, hein. C'est pas non plus aussi gros qu'une lampe à billes. Alors, l'histoire commence à devenir extrêmement intéressante de ce côté-là. Donc, Bardeen et Brattain, c'est eux qui inventent le premier transistor, c'est un point de contact transistor. Shockley, lui, n'est pas là. Quand ils font la première amplification, Shockley, il est absent. Okay? Donc il l'appelle, Bardeen et Brattain, pardon, appellent Shockley en lui disant c'est bon, on l'a. Donc vous voyez, on est quand même en 1947, Shockley ça fait quand même 10 ans qu'il bosse sur le sujet, bon il y a eu la pause de la guerre, mais quand même. Et il n'est pas là pour l'invention du premier transistor. Donc, il arrive en catastrophe au Bell Labs, il regarde la mesure, et effectivement, ça amplifie. Donc, Bardeen et Brattain ont bien fait le premier transistor. Sauf que Shockley, qui est un peu au courant, parce qu'il est déjà un peu dans une position de management, il est au courant que, puisqu'il n'était pas là, il ne peut pas être sur le brevet du transistor. Et là, il est quand même assez dégoûté. Okay? Donc, on est en hiver 47, on est le 23 décembre 1947. Et donc, Shockley, il va faire une réponse à ça. On est à 2 jours de Noël, on est le 23 janvier 1947. Shockley est donc extrêmement dégoûté. Il va appeler sa famille et il va leur dire: m'attendez pas pour Noël, je ne serai pas là. Sa famille étant basée en Californie. Bon, ça aura une importance pour la suite. Il s'enferme dans une chambre d'hôtel, okay, et il comprend l'idée de Bardeen. Il comprend cette histoire d'injection de porteurs minoritaires et comment il a eu l'idée de ce point de contact transistor. Et dans sa chambre d'hôtel, en une semaine, lors de Noël 47, il invente le transistor bipolaire, papier, crayon. Juste en ayant compris cette histoire d'injection de porteurs minoritaires. Alors le bipolaire, c'est très différent du point de contact transistor. C'est donc le deuxième transistor qui a été inventé, en tout cas sur le papier. Mais il était facilement réalisable parce que Shockley était au courant des différentes techniques de dopage et de contre-dopage qu'on était capable de faire, et il savait qu'on pouvait faire des jonctions comme ça. Et donc en décalant un peu les structures et en polarisant une base, il savait très bien que ça allait fonctionner comme la structure point de contact de Bardeen. Donc en fait, Shockley n'est pas présent sur le brevet du transistor point de contact, mais c'est lui qui invente le transistor bipolaire, papier, crayon. Quelles sont tout d'abord les conséquences de ces deux inventions? Alors, tout d'abord, le point de contact transistor en germanium va être commercialisé. Donc, c'est vraiment les premiers composants transistor qui sont commercialisés. Mais le problème, c'est qu'ils marchent très mal, puisqu'en fait, il faut contacter deux électrodes de façon assez proche. Il est très fragile lui aussi, il n'est pas fiable. Donc il est très rapidement remplacé par le transistor bipolaire qui pour le coup lui est beaucoup plus solide et toujours en germanium. Okay? À cette époque-là, donc forcément le germanium c'est plus rare que le silicium, même si le silicium on a tendance à dire que c'est 35% de la croûte terrestre, j'aimerais préciser que le silicium qu'on utilise dans les puces électroniques c'est pas le silicium qu'on trouve sur les pierres au coin de la rue. Ce sont des gisements de sable très spécifiques, très riches en silicium, Et actuellement, on est plutôt sur une phase où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va trouver le reste du silicium. Donc ne soyez pas dupes du 35% de la croûte terrestre en silicium, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, quand même, le silicium est plus présent que le germanium. Et le silicium présente, est aussi un semi-conducteur et présente les mêmes propriétés que le germanium. Mais le silicium a un gap plus fort et un point de fusion qui est beaucoup plus haut. Et dans cette période-là, forcément, on voulait remplacer le bipolaire germanium par le silicium pour une autre raison aussi que la rareté, c'est que le gap étant plus faible, les radios qui étaient à base de transistors en germanium marchaient très très mal sous les effets de la chaleur, parce que le silicium, enfin, le germanium a tendance à très vite redevenir intrinsèque et à plus faire la différence entre jonction N et jonction P, ce qui est très problématique pour un transistor bipolaire. Et donc on savait que pour le silicium ayant un gap plus fort, on n'allait pas avoir ce problème de tenue en chaleur. Donc il y a eu beaucoup de recherches dans ces années-là, donc toujours autour de fin 40, début 50, sur le remplacement du germanium par le silicium. Et donc, enfin, les gens étaient persuadés que c'était impossible parce que le point de fusion était trop haut, qu'on n'allait pas arriver à faire des cristaux. Bref, l'histoire a quand même montré que c'était le contraire, et ils ont réussi à faire des bipolaires en silicium. Les bipolaires en silicium ont très très vite remplacé les bipolaires en germanium. Et tout au long de ces différentes années-là, surtout ce qui passe d'un point de vue, donc ça, ce sont les développements techniques. Ce qui se passe sur le plan humain, c'est que Bardeen, Brattain et Shockley ne s'entendent plus du tout, parce que Shockley est de plus en plus insupportable. L'histoire confirmera cette tendance, et le groupe éclate. Les trois inventeurs des premiers transistors, Shockley, Bardeen et Brattain, prennent donc trois directions, alors surtout pour trois directions différentes, surtout pour Shockley et Bardeen. Brattain, lui, reste au Bell Labs. Il prend tranquillement sa retraite quelques années plus tard. Là, l'histoire dont je parle, elle est autour de 1955-1956, okay, juste un peu avant 56. Shockley, c'était quelqu'un d'assez entreprenant. C'était quelqu'un qui avait une certaine estime de lui-même, on va dire, des idées un peu borderline, je reviendrai dessus. Et il arrive à convaincre des investisseurs de le financer pour monter une entreprise qui s'appelle très humblement Shockley Semiconductor. Il est auréolé quand même d'une aura très forte. Il a quand même fait partie de l'équipe qui a inventé le premier transistor, qui est déjà en train de créer beaucoup de. Enfin, assez modifié ce qui est la préhistoire de l'industrie de l'électronique. Et donc, voilà, les financeurs de finances pour monter son entreprise. Et il retourne du côté de chez lui en Californie. Pour Bardeen, lui, il en avait un peu marre de ces histoires. Apparemment, dans ce que j'ai pu lire, il était quand même assez marqué de la tournure que le groupe a pris dans les années 50. Et il revient à ses premiers amours, c'est-à-dire l'université. Il repart enseigner et faire de la recherche à l'université d'Illinois. Pour monter son entreprise, Shockley recrute exactement de la même manière qu'il l'a fait précédemment pour Bardeen, et comme l'avait fait lui-même Mervyn Kelly. Il fait le tour des universités, et là, il tape large. Il fait non seulement le tour des universités américaines, mais il fait en plus le tour des universités européennes. Il est vraiment très auréolé, donc. Il va recruter les meilleurs doctorants en physique du semi-conducteur et ce qui était le tout début de la physique des composants. Okay? Donc, en 1956, avec les fonds, il monte son entreprise et il s'installe, il retourne chez lui, il venait de Palo Alto. Okay? Je ne sais pas si ça vous parle, Palo Alto. Il se met dans une petite vallée plutôt sympathique du côté de Palo Alto et il monte son entreprise qui s'appelle humblement Shockley Semiconductor, et il embauche en partie les personnes qui sont sur la photo du dessous. Je reviendrai sur eux juste après. Le problème, c'est que Shockley, c'est pas vraiment un grand chef. C'est même pas vraiment un grand chef du tout. Et ça se passe plutôt mal. Alors Shockley, il avait inventé le transistor bipolaire, donc NPN. Et là, moi je comprends pas trop d'un point de vue historique, mais je comprends pas tout le personnage non plus, mais ça c'est à peu près compréhensible, vous verrez par la suite. Shockley, il a qu'une obsession durant le montage au début, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, de Shockley Semiconductor. Il veut faire le NPNP, ou le PNPN, c'est la même chose. Il est persuadé que le NPNP C'est l'avenir de l'électronique, ça va être fantastique. Et il met toutes ses équipes sur ce projet complètement stupide. Alors je sais pas à quoi, enfin, je sais pas si vous savez à quoi ça correspond une structure NPNP. C'est utilisé, ça s'appelle un thyristor. Un thyristor, c'est une espèce de transistor avec ce qu'on appelle une gâchette, je crois. Une fois qu'on polarise, le transistor est passant, et même si on enlève la polarisation, le transistor reste passant. Donc c'est une espèce de relais, enfin, c'est quelque chose. C'est utile dans certains composants. C'est aussi un composant parasite dans certaines technologies, et on essaye d'éviter les effets thyristor dans les technologies qu'on appelle enfin, les technologies bipolaires et les technologies BiCMOS. C'est des choses qui sont très importantes en analogue, vous verrez pour ceux qui font de la conception électronique analogique. Mais donc il est obsédé par cette idée-là, et il met tout le monde sur le pont. Alors il a quand même recruté pas des gens qui sont complètement bêtes, hein, c'est quand même parmi les meilleurs doctorants d'Europe et d'Amérique. Et très vite l'équipe comprend que ça va pas du tout, quoi. Et en particulier, il y a un événement qui est relaté dans le livre que j'ai lu, qui est très symptomatique. Il paraît qu'un jour, donc la secrétaire de Choclet ne retrouve pas son agrafeuse, et Choclet pète un plomb complet et passe dans l'entreprise en hurlant qui a pris l'agrafeuse de sa secrétaire. Et donc là, l'équipe comprend que ça va pas du tout, que ça peut pas continuer, et ça commence à gamberger sans Choclet, à se dire comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cette situation. Alors certes, c'est la catastrophe à Choclet Semiconducteur, mais 56 est une très très bonne année pour les inventeurs du transistor, puisque c'est cette année qu'on leur décerne le prix Nobel pour l'invention du transistor à Choclet, Bardeen et Brattain. Donc à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, ils s'entendent plus du tout. Sauf que, ils ont le prix Nobel, donc ils sont bien obligés de se revoir. Donc il y a des séries de photos qui sont assez fascinantes, je trouve, personnellement, parce que moi je connais un peu l'histoire. Ce sont cette série de photos. Donc en particulier, vous avez les photos de Life, là. Donc ça, c'est ma photo préférée des trois. Mais il faut prendre conscience que là, ils sont plus du tout potes, hein. Donc ils posent pour ce magazine qui est fameux. Et les Bell Labs, là où ils travaillaient, leur demandent, alors qu'ils n'y travaillent plus, en fait, hein, leur demande de faire des photos reconstitution, parce que c'est aussi la gloire pour les Bell Labs. Hein. Les Bell Labs, le prix Nobel aux Bell Labs, c'est quand même quelque chose de très très important pour l'institution. Et bon an mal an, les trois se remettent, rejoignent les Bell Labs en se disant bon, allez, on va quand même faire un petit effort, quoi. Donc il y a une photo, il y a une série de photos, alors elles sont peut-être un peu plus anciennes celles-ci, mais il y a une série de photos qui me font beaucoup rire, qui était décrite dans le bouquin que je vous ai raconté. Ce sont celles du dessous, où on voit Choclet en train de maniper. Sauf que Choclet était le chef, et il manipait pas du tout. Celui qui manipait, c'était Brattain. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les regards sur ces photos-là. C'est surtout les regards de Bardeen, perdu dans le vide, en regardant Brattain, en sachant pertinemment que c'était Brattain qui était sur ce coin de manip. Et Choclet, qui est là, tranquille, en train de faire croire que c'était lui qui manipait, quoi. Voilà, pas de problème. Ça décrit vraiment, vraiment l'ambiance qui régnait entre eux à la fin, enfin, au moment où, en 56, ils obtiennent le prix Nobel. 56 est aussi une très très bonne année pour Bardeen, puisque en plus d'avoir son prix Nobel, en fait à l'université d'Illinois, il est entouré de deux autres collègues, et bien Bardeen travaille sur une autre théorie. Il a un peu changé de sujet, il travaille toujours sur la physique du solide, mais il travaille sur la supraconductivité, qui est un phénomène qu'on ne comprenait pas trop à l'époque, en fait pas spécialement toujours maintenant. Mais il donne une des premières théories de la supraconductivité qui s'appelle la théorie BCS. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est une des premières théories. Enfin, il y a beaucoup de théories concurrentielles et beaucoup de sortes de supraconductivité, tout ça, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Mais bon, la théorie BCS parfois est un peu critiquée aujourd'hui. Mais voilà, quand même, Bardeen a été parmi les trois, encore un trinôme, à faire la première théorie de la supraconductivité. Petite histoire, Bardeen sera donc en 56, travaille sur la supraconductivité, en 56 reçoit le prix Nobel pour le transistor, et 10 ans plus tard, il recevra le prix Nobel pour la théorie BCS. Bardeen est la seule personne qui a deux prix Nobel de physique. Il y a d'autres personnes qui ont deux prix Nobel, mais dans des catégories différentes. Lui, c'est le seul qui a deux prix Nobel en physique. Et je pense que ce sera probablement le seul ad vitam. Et parce qu'effectivement, il était dans le domaine qui était en explosion à l'époque, c'est-à-dire celui de la physique du solide. Pour info aussi, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur son fils, qui est aussi physicien et qui a travaillé avec Hawking sur la thermodynamique des trous noirs, donc bon, des trucs un peu plus science-fiction quand même. Et autre détail sur lequel je suis tombé en révisant pour vous présenter ce séminaire, j'ai découvert qu'un thésard de Bardeen avait inventé la LED. Bah, la LED dans le visible, parce qu'apparemment on arrivait à faire des LED dans les micro-ondes, mais la première LED dans le visible, la LED de semi-conducteur 3.5, c'est un thésard de Bardeen qui l'a fait. Donc petit succès pour le monsieur. Alors revenons à Shockley et à son entreprise Shockley Semiconductor. En fait, dès 57, comme je vous l'ai dit, dès 56 et 57, ça se passait très 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 mal. Et donc les 8 personnes que je vous ai montrées sur la photo, là, en avaient vraiment plus que marre de Shockley, sachant que le travail n'avançait absolument pas du tout et que les objectifs étaient complètement insensés, voire complètement inutiles. Ils sont eux-mêmes allés voir les financeurs de l'entreprise pour dire, écoutez, je pense qu'on a un problème avec Shockley, voici le topo et nous on pense qu'on peut mieux faire. Et donc les investisseurs qui étaient déjà pas très très contents des retombées sur la courte période de gestion de Shockley ont accepté la proposition de ces 8 personnes. Et en fait, ces 8 personnes sont connues dans l'histoire comme étant The Traitorous Eight, c'est-à-dire ceux qui étaient les 8 traîtres qui ont lâché Shockley. Et donc ils ont récupéré les financements et ils ont monté une entreprise qui s'appelle Fairchild Semiconductor. Alors, tous les noms qui sont de ces 8 personnes sont relativement connus, mais je vais insister sur deux. En premier, celui qui est complètement à gauche, qui s'appelle Gordon Moore, et vous avez nécessairement entendu parler de cette personne, parce que Gordon Moore, c'est le monsieur de la loi de Moore. Et après, vous en avez un que vous n'avez sans doute pas du tout entendu parler, qui est Robert Noyce. Robert Noyce était aussi un brillant scientifique, et durant la période à Shockley Semiconductor, il a été prouvé que, en fait, sur un. Donc ça a été découvert il y a quelques années, on a réouvert ses cahiers de notes, et en fait, il a inventé un composant qui va être réinventé par quelqu'un d'autre. Il a inventé ce qu'on appelle la diode des acquis, c'est-à-dire la diode tunnel. C'est une diode avec une résistance négative. Et donc, Robert Noyce, voilà, aurait déjà inventé, durant son passage à Fairchild, comment dire, la diode des acquis, la diode tunnel. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, puisqu'en fait Fairchild va être le berceau de l'essaimage, comme on dit maintenant, de beaucoup d'autres entreprises. Et en particulier, Fairchild va être localisé pas loin de là où était déjà Shockley Semiconductor, c'est-à-dire toujours dans la même vallée du côté de Palo Alto, vous savez, le truc qu'on va appeler par la suite la Silicon Valley en fait. Donc tout commence de là. Et en particulier, il y a une entreprise qui va être créée à la suite de Fairchild, avec l'invention du que je vais vous expliquer sur le slide d'après. Et cette entreprise, c'est Intel. À Fairchild, en plus d'avoir inventé sans qu'on sache la diode des acquis à Shockley Semiconductor, à Fairchild, Robert Noyce va participer à un projet qui est en fait l'invention du premier circuit intégré. Okay? Donc il y avait déjà des circuits imprimés, il faut faire la différence. Un circuit intégré, c'est un ensemble de transistors qui sont faits sur une seule et même puce d'un cristal de silicium. Alors en fait, cette invention, elle a été co-inventée. Alors c'est une histoire un peu longue quand j'ai fait mes révisions pour le truc, pour le séminaire. Je me suis rendu sur la page Wikipédia, il y a des choses très très intéressantes qui montrent que, en fait, l'invention du circuit intégré était déjà très ancienne. Okay? Il y a déjà des prémices dans les années 20 de cette idée d'intégrer sur une même puce déjà des composants différents. Et en fait, c'est quelque chose qui parcourt déjà dès les années 40. La question, c'était comment est-ce qu'on le faisait? Alors sur la base de travaux de quelqu'un qui était aussi au Bell Labs, hein, oui c'est ça, il était au Bell Labs, Atala, il a travaillé sur les process de passivation, donc à partir d'oxydation, tout ça. Et tous ces process, toutes ces améliorations de process ont permis à deux personnes en parallèle, à deux endroits différents, donc Jack Kilby, qui était à Texas Instruments, et Robert Noyce, qui était donc à Fairchild, d'inventer la même année le circuit intégré. Cette invention va donner le prix Nobel à Jack Kilby et pas à Robert Noyce. On savait que Robert Noyce avait beaucoup participé, mais le problème c'est que lors de l'année où on a remis le donc il a été inventé en 59 le premier circuit intégré. Le problème c'est qu'au moment de la remise du prix Nobel, Robert Noyce était mort. Il est mort relativement jeune. Et on ne décerne pas de prix Nobel à titre posthume. Pour information, la diode des acquis, donc qui a été inventée par Ezaki, lui a donné le prix Nobel. Or, en fait, on a retrouvé, ayant retrouvé dans les cahiers de notes de Robert Noyce, on a retrouvé qu'il avait en fait inventé la diode des acquis avant Ezaki. Donc, autant John Bardeen est la seule personne qui a obtenu deux prix Nobel de physique, autant Robert Noyce est la seule personne qui aurait dû obtenir deux prix Nobel de physique et qui ne les a pas eu parce que malheureusement il était mort à l'époque. Donc c'est sur les bases que sur les bases des travaux de Mohamed Atala, donc qui était un chercheur d'origine égyptienne qui travaillait au Bell Labs, qui va se faire la dernière grande percée de cette histoire et qui est proposée sur le slide suivant. Et cette dernière invention, c'est celle du MOSFET, donc le transistor à effet de champ, field effect transistor pour FET, MOS pour métal oxyde semi-conducteur. Et c'est la même personne qui a travaillé sur les états d'interface, qui a inventé à la fois les process de réduction des pardon, le process de passivation, et donc c'est la même personne qui a travaillé sur le process de passivation qui a inventé le MOSFET. Alors pourquoi ça? Donc sur la photo, là, on voit Mohamed Atala, à l'époque où il était au Bell Labs. Par la suite, c'est devenu un entrepreneur en cryptographie déjà à l'époque. C'est quelqu'un qui a inventé le code PIN, donc le Personal Identifying Number, donc le truc qu'on tape à chaque fois qu'on tape sur une carte bancaire. Il a travaillé plutôt donc du côté software par la suite, électronique. Il a fait beaucoup de choses, mais au début de sa carrière, il travaillait sur la physique des processus technologiques, donc la physique ce qui était l'embryon de la physique de la technologie microélectronique. Et donc il travaillait sur la passivation et en particulier sur les processus d'oxydation. Et le processus d'oxydation est très intéressant et il est possible uniquement à partir du moment où on a un cristal de silicium, parce que dans un cristal de silicium, on peut faire pousser en oxydant avec des processus contrôlés d'oxydation, enfin thermique, soit sèche, soit humide, on peut faire pousser une couche contrôlée d'oxyde de silicium. Et l'avantage de cette couche de SiO2 par-dessus cette couche de Si, c'est qu'elle passive. Et quand on dit qu'elle passive, ça veut dire qu'elle supprime les états d'interface. Et donc en supprimant les états d'interface, on pouvait faire deux choses. Déjà, on pouvait isoler les composants, ce qui a permis l'invention des circuits intégrés. Mais surtout, on pouvait enfin faire un diélectrique qui était correct, là où il n'y avait pas sans état d'interface, ou en tout cas avec très peu d'état d'interface. Et donc on peut revenir à l'idée initiale qu'avait Shockley au tout début de ses travaux en 1936, et donc faire cette structure avec un condensateur, mais au lieu de mettre de l'air au milieu entre le semi-conducteur et le métal, on vient faire pousser un oxyde qui supprime les états d'interface. Et on dépose un métal par-dessus et on forme un transistor MOS exactement comme voulait faire Shockley à l'époque. Donc c'est Atala qui invente le MOSFET en 1959. L'invention du MOSFET, l'invention concomitante du MOSFET et du circuit intégré, ça fait exploser l'industrie des semi-conducteurs. Ça fait naître l'industrie des semi-conducteurs et ça fait exploser l'industrie des semi-conducteurs. Pour ceux qui feront la 3A IFI, dans mon cours de 3A, je fais un long détail sur comment fonctionne un transistor, quels sont les effets parasites, etc. Et j'explique en particulier pourquoi réduire les dimensions du transistor, je ne vais pas l'expliquer ici, c'est à la fois très intéressant pour en faire plus pour un coût moindre, mais en plus, les performances sont meilleures. Et donc, le MOSFET, c'est vraiment un composant qui est absolument fascinant dans le sens où plus on le réduit, meilleur il est, et en plus, il coûte moins cher. Et donc, ça a été la source d'énormément de gains de revenus et de développement technologique que vous connaissez parce que vous êtes littéralement en train de m'écouter sur un MP3, probablement sur un ordinateur ou un téléphone portable ou quelque chose comme ça. Et donc c'est le début de l'ère de l'électronique, de l'ère intégrée. C'est donc le MOSFET dans sa structure qui est beaucoup plus intéressante pour les applications digitales que le bipolaire qui permet de faire ces choses-là. Donc vous voyez, on a commencé le séminaire s'arrête ici, je vais conclure, on a commencé le séminaire grosso modo au niveau de l'année 1936. Où on a comment dire, un premier travail sur l'effet de champ, et on arrive en 1959 sur l'invention du MOSFET. Donc, certes, il y a eu la guerre entre les deux, mais vous avez quasiment quand même 25 ans de développement, que je me trompe pas, 15 ans de développement, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. On a une bonne quinzaine d'années de développement. Qu'est-ce que je raconte? 25 ans, non, c'est sûr, c'est ça, il n'y a pas de souci. Quel pull manteau, super. Je vais le laisser quand même, ça vous fera rire, hein, je ne vais pas le couper au montage, ce serait quand même triste. Mais donc on a quasiment 25 ans de travail pour arriver à cette structure. Alors cette structure, comme je vous l'ai dit, c'est la première à laquelle on pensait. Et à tel point qu'en fait, quand ils ont voulu breveter le MOSFET, ben, ils n'ont pas pu. Parce qu'en fait, le MOSFET avait déjà été inventé. Le MOSFET avait été inventé autour de 26-27 par un physicien polonais, je crois, à Micro-États-Unis, qui s'appelle Lilienfeld, et qui avait déposé un brevet dans ces années-là sur cette idée-là. Donc le MOSFET, c'est l'idée première qu'on a une fois qu'on a compris comment fonctionne un semi-conducteur, c'est-à-dire faire un effet de champ, augmenter une quantité de porteur et faire varier une conductivité. Voilà. J'espère que ce séminaire vous aura intéressé, j'espère que ça aura illustré à quel point en fait les avancées technologiques peuvent prendre du temps et que bah, des fois, c'est bien beau de prôner l'innovation, 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 mais que quand on a une idée, et bah, des fois, bah, il faut y mettre le paquet, il faut y mettre le paquet pendant pas mal de temps. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, d'abord, je vous recommande d'aller sur les différentes pages Wikipédia des scientifiques que j'ai nommés dans les slides. Et de voir à voilà, circuit intégré, MOSFET, tout ça, toutes les histoires qui sont autour de ces choses-là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. À bientôt, j'espère.